Bonjour à tous. En premier lieu, je voudrais vous présenter Philippe et Véronique Soulet, qui sont deux frères et sœurs en Christ qui habitent Terrasson et qui aujourd'hui nous ont fait la joie de nous accompagner. Alors, c'est un thème qui a commencé depuis pas mal de temps, enfin un mois et demi, je crois. Donc, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'avaient pas été là. Le thème s'appelle « Le christianisme, relation personnelle avec Jésus-Christ ». Et la première partie, j'avais présenté les religions existantes dans le monde, qui sont principalement au nombre de quatre, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme, mais le judaïsme, pardon, le judaïsme. Et on avait vu que aucune d'elles ne donne une assurance de salut, aucune d'elles ne donne une assurance quelconque, d'ailleurs. Parce qu'à la fin, les gens sont toujours dans l'expectative et ne savent pas s'ils vont être sauvés. Le christianisme, tel que Jésus-Christ l'a présenté sur Terre, donne-lui une assurance de salut et une assurance de relation avec Dieu par son intermédiaire. Jésus-Christ a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc les choses sont claires. Et nous avons vu également donc, le début de Genèse, où Dieu, qui est un Dieu infiniment grand, que nous ne pouvons pas vraiment capter dans toute sa plénitude, tellement qu'il est infini dans ses caractéristiques, avait décidé, par amour et bonté, de créer un être humain à sa ressemblance et à son image, et que ce qui l'animait, c'était sa bonté, son amour, tout simplement, parce que Dieu peut se suffire à lui-même, il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de nous, il peut se passer de nous. Mais comme un homme et une femme qui s'aiment, se marient, décident d'avoir une famille, lui, son amour l'a poussé à créer des êtres vivants, et notamment donc l'être humain. Et surtout à vouloir établir une relation avec lui, une relation non seulement existentielle, mais une relation de communication, de partage. Et donc, dans Genèse, on voit tout ça se mettre en place. Et malheureusement, dès le départ, Adam et Ève font un choix malheureux qui coupe cette relation, qui met fin à cette relation de confiance que Dieu voulait établir entre lui et Adam et Ève. Et malheureusement, ils ne peuvent pas aller plus loin dans le plan de Dieu. Et donc, il y a une suite que vous connaissez, donc, on le voit à travers de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, donc, on va faire un bond de 4 000 ans, puisqu'on va se retrouver donc, en Palestine avec donc, la présence de Jésus-Christ. Dans tout l'Ancien Testament, on voit que Dieu donc, se choisit un peuple, le peuple juif, par lequel il souhaite évangéliser le monde. Malheureusement, les Juifs ont montré une certaine réticence à être obéissants. On voit là encore, tout au long de l'Ancien Testament, la relation que Dieu a avec ces personnes, avec Abraham, avec Moïse et puis avec tout le peuple. Donc c'est plein de péripéties. Et puis, 4000 ans plus tard, donc, comme Dieu l'avait déjà planifié, prévu, Jésus-Christ arrive pour aller vers les brebis perdues d'Israël. Et alors, notamment donc dans Hébreux, alors l'épître aux Hébreux s'adresse aux Hébreux, malgré tout, il s'adresse aussi à nous indirectement. Il est dit donc dans chapitre 1 de Hébreux, verset 1, « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, donc là on parle des Juifs, à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé par son Fils. » Donc on voit qu'il y a dans l'attitude de Dieu un cheminement, notamment avec son peuple, d'avoir parlé pendant des siècles par l'intermédiaire de personnes choisies par lui. Mais à la fin, il envoie son représentant le plus grand, son fils, pour justement régler et mettre en place un certain nombre de choses. Et donc, quand Jésus-Christ commence son ministère, dans Matthieu 4, 17, les premières paroles qu'il prononce dans son ministère, ce sont les choses suivantes. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On va dire que, dans ces paroles-là, c'est le résumé de l'évangile. Pourquoi ? Premièrement, Jésus-Christ, pour écouter sa parole, il faut s'y intéresser, et il faut le reconnaître que c'est le Fils de Dieu. Parce que si c'est un homme, n'importe quel homme, il n'y a pas d'intérêt. La terre regorge de nombreux philosophes, avec des philosophies diverses et variées, mais ces philosophies, force est de constater qu'il n'amène à rien. Par contre, lui, il parle au nom de Dieu. Et lui-même prétend qu'il est fils de Dieu. Et il l'est, puisqu'il l'a démontré par ses miracles. Donc, il faut d'abord croire qu'il est Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, repentez-vous. Donc cela nous interpelle. Ça veut dire qu'on a quelque chose sur notre conscience, on a fait dans le passé, où on a un comportement qui n'est pas adéquat avec ce qu'attend Dieu ou Jésus-Christ. Donc il nous dit, repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Donc le royaume des cieux, c'est proche. C'est quoi? C'est le gouvernement que Dieu veut instaurer avec les êtres qui se sont repentés et qui veulent vivre avec lui. Et si le royaume des cieux approche, ça veut dire qu'il va y avoir un jugement. Un jugement de condamnation éternelle pour certains et un jugement de vie éternelle pour d'autres. Donc là encore, on voit que Dieu est impliqué et que Dieu prend l'initiative des choses. Il envoie son Fils. Ce n'est pas l'être humain qui va vers Dieu, même si dans les religions c'est ce qui se passe. C'est l'être humain qui veut aller vers Dieu par ses propres moyens, en répondant à des actes, en faisant des choses, en jeûnant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Mais voilà, il s'impose, l'homme s'impose des choses pour sa conscience dire « Ah, ça j'ai fait bien fait, donc je suis digne de m'approcher de Dieu. » Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'attend Dieu de notre part. Et Jésus donc commence son ministère et il dit lui-même, alors, dans Matthieu 15, 24, vous vous souvenez de cet épisode où une femme cananéenne interpelle Jésus. Il est en train de marcher avec ses disciples, avec ses apôtres, enfin ses futurs apôtres. Et une femme crie après lui pour lui demander son aide pour sauver sa fille qui est habitée par des démons. Et Jésus-Christ ne répond pas. Il fait le sourd, il continue son chemin. Et la femme est insistante, elle insiste lourdement, on va dire. Et ses apôtres, ils commencent à se dire, Jésus, fais quelque chose, parce que voilà, elle est derrière nous, on va la traîner comme ça, elle va nous crier après, fais quelque chose, quoi. Et Jésus répond, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est effectivement, Jésus débute son ministère en Israël et auprès du peuple juif. Cependant, il y a une chose qui est intéressante de noter. Alors par contre, je n'ai pas noté la version, la référence. Quand Jésus commence son ministère, ah oui, donc c'était dans Matthieu 4, 17, juste avant, donc 4, 16. Quand Jésus commence son ministère, il commence en pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Donc les gentils, on sait qu'un synonyme, c'est païen. Et il est intéressant de noter que dans cette région-là où il a commencé son ministère, de nombreux païens vivaient dans les grandes villes de la Galilée. Et il y avait des échanges commerciaux, de trafic, entre les juifs et les païens. Donc c'est pas anodin. Même si Jésus-Christ a commencé son ministère et a d'abord été envoyé auprès du peuple juif, il a commencé dans une terre où il y avait des gentils également, et donc qui ont eu accès à sa parole, et qui ont également eu accès aux miracles qu'il a fait. Donc qui, éventuellement, pouvaient être convertis par lui. Donc on voit que, finalement, Dieu s'adresse à tout le monde. Aussi bien en priorité, bien sûr, le peuple juif, qui est un peuple spécial dans le cœur de Dieu, mais également à tous les êtres humains. Alors, il est bon de dire aux gens que nous tentons d'évangéliser, que le motif de l'évangélisation, c'est pas seulement de les sauver ou de leur faire échapper à l'enfer. Parce que c'est vrai que c'est une conséquence. L'incrédulité, la conséquence de l'incrédulité, c'est de finir tôt ou tard à l'enfer. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est de faire comprendre que Dieu existe et que son souhait, c'est d'établir une relation privilégiée avec chacun des êtres humains sur Terre, avec chacun. Pour lui, il n'y a pas un seul être humain qui ne vaille pas la peine. Le plus petit, le plus insignifiant, ou tout du moins celui que l'être humain pourrait considérer comme insignifiant, de par sa pauvreté, de par son niveau intellectuel, de par son niveau social, Dieu le chérit autant qu'une personne riche ou qu'une personne hautement intellectuelle, etc. Pour Dieu, il n'y a pas de différence, parce que Dieu, ce qu'il regarde, c'est le cœur de chaque individu. Il ne fait pas attention à la position de la personne. Il ne fait pas acception de personne, contrairement aux êtres humains, où nous mettons des classifications, des catégories, et nous jugeons que telle personne vaut mieux que telle autre. Chez Dieu, ça n'existe pas. Parce que toute sa création est bonne. Lui-même, dans Genèse, quand il dit, quand il fait une chose, il regarde à son avis et dit « c'est bon ». Donc, dans son action, dans sa pensée, tout est bon. Si après, les choses dégénèrent, elles ne sont pas de son ressort. Parce que lui, au départ, l'intention, elle est bonne, elle est parfaite. Mais comme il laisse à l'être humain, et on l'a vu dans Genèse, la liberté de penser et d'agir, même si lui souhaiterait que la personne agisse de telle façon, il lui laisse la liberté. C'est pour ça que lors du jugement, malheureusement pour ceux qui n'auront pas voulu accepter l'amour de Dieu et de Christ, il n'y aura pas d'excuse, parce que chacun aura eu la liberté en son âme et conscience d'accepter ou de refuser. Parce que, comme nous l'avons vu dans Genèse, Dieu ne force pas l'individu à l'aimer. C'est son souhait. C'est son souhait d'établir une relation parfaite et profonde avec lui. Mais il ne veut pas forcer. Quand vous êtes marié avec votre femme ou quand vous êtes marié à votre mari, on ne vous a pas forcé. Je sais que dans le monde, il existe des mariages arrangés. Mais normalement, la nature du mariage, c'est quelque chose de libre. Et donc, choisir, c'est renoncer. Donc, pour un homme, c'est renoncer à toutes les femmes. Et pour une femme, c'est renoncer à tous les hommes pour une seule personne. Mais ces personnes-là sont libres de le faire entre deux, de s'entendre. Et si elles le font après, c'est pour la vie. Donc Dieu, c'est pareil. Il ne force personne. C'est son souhait de se faire connaître, de se faire découvrir, de se faire apprécier et de montrer également sa bonté vis-à-vis de la personne. Mais si cette personne ne veut pas établir la relation avec lui, bah, il ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il est important dans l'évangélisation, non seulement de parler effectivement du salut des âmes, que tous nous sommes pécheurs, que Dieu a pourvu une solution en son Fils Jésus-Christ, mais ce n'est pas seulement pour le salut, c'est après pour établir une relation, et surtout pour quoi faire ? Pour rendre l'être humain heureux. Parce que Dieu, son souhait, c'est non seulement d'établir une relation avec lui, mais c'est également de le rendre heureux, mais selon ses préceptes à lui. Et ça, pour nous, c'est difficile à accepter. Pourquoi ? Parce que nous avons une éducation, notamment dans le monde. On nous apprend à nous débrouiller, à être autonomes, à penser par nous-mêmes, à avoir un sens critique. Donc, de manière, tout ça vient un peu, parfois, en querelle, en contradiction avec la volonté de Dieu et surtout par rapport à ses dogmes. Un exemple de la volonté de Dieu de rendre l'homme heureux. On le trouve... Il n'y a pas que là, mais j'ai pris juste ça comme exemple. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 4,40, vous n'êtes pas obligé de chercher, c'est long à tourner les pages, donc je vous les donne. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël et observe ses statuts, ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges tes jours sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. On trouve également toujours dans Deutéronome 5,16 « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel Dieu te donne. Voilà. » Donc, il y a plein comme ça. Alors, dans l'Ancien Testament, ce sont des commandements. Mais dans le Nouveau Testament, ces commandements existent toujours, mais il ne s'agit plus de faire, pour obéir. C'est quelque chose qu'on intègre avec sa relation avec le Seigneur, comme une éducation, comme des parents qui éduquent des enfants. Suivant l'âge intellectuel de l'enfant, de son niveau de développement, au départ, on lui dit « fais pas ci, fais pas ça », mais peu à peu, après, on rentre dans un processus de dialogue, de compréhension, de partage. On dit « voilà, ne fais pas ça parce qu'il peut se passer telle chose, voilà ». Donc, il y a une espèce de coopération qui s'établit peu à peu en fonction de l'évolution intellectuelle, mentale de l'enfant. Et c'est la même chose avec l'être humain. Au départ, en Ancien Testament, c'était des choses qui étaient bien précises à faire et à obéir. Et finalement, dans le cadre de l'Ancien Testament, c'était pour faire comprendre aux Juifs que de toute façon, ils ne pourraient pas obéir à tout parce que humainement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'après, dans le Nouveau Testament, on a la venue du Saint-Esprit pour ceux qui sont repentis, convertis, de façon à ce que nous ayons cette aide, cette capacité de pouvoir finalement obéir, je dirais, presque sans nous forcer, bien que parfois encore, nous voyons apparaître en nous le vieil homme qui réapparaît, ou la vieille femme, et qui nous amène parfois à pécher. Mais voilà, dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle relation différente de l'Ancien Testament qui s'est établie. Donc, le souhait de Dieu, c'est que l'être humain le reconnaisse comme Dieu et le connaisse également, c'est-à-dire apprend à savoir qui est Dieu. Et on le voit, on a un exemple, hein, dans Job, chapitre 42. Vous connaissez l'histoire de Job, qui a fait l'objet de beaucoup de malheurs, parce que le diable s'est déchaîné sur lui, Au début de Job, on voit que Dieu permet au diable d'entrer dans sa vie, à Job, et de lui mettre les malheurs. Il lui dit, fais tout ceci, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Et donc même le diable lui colle une maladie terrible. Donc pendant tous les chapitres, on voit Job qui se lamente, qui essaye de comprendre pourquoi Dieu permet que ces malheurs arrivent dans sa vie. Lui qui ne péchait pas, qui était très respectueux des commandements de Dieu, qui même faisait des holocaustes pour ses enfants, parce qu'il pensait que peut-être lorsqu'ils faisaient des fêtes, ils avaient péché, donc il avait une crainte de Dieu, et pour que ses enfants soient pardonnés, il faisait des holocaustes pour ses enfants auprès de Dieu. Donc Job était très impliqué, on va dire, dans sa relation avec Dieu et avec ses enfants. Cependant, on peut se demander pourquoi tous ces malheurs lui sont arrivés. Et on en a donc la réponse au chapitre 42, verset 1. Alors Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir un dessein. Qui obscurcit mes plans sans science? Écoute donc et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière, sur la cendre. » La phrase capitale, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Mon œil t'a vu, ça veut dire en fait que maintenant j'ai enfin une relation directe avec toi. Avant c'était un dieu un peu fantasmagorique, un peu inconnu. Maintenant, grâce à ces malheurs-là, grâce à toutes ces péripéties, enfin il a compris qu'il pouvait établir une relation directe avec Dieu. Et c'est ce que souhaite Dieu, établir une relation directe avec chaque personne. Parce que Dieu ne veut pas seulement qu'on échappe à l'enfer, mais sinon il veut vivre avec nous, comme un homme et une femme vivent ensemble, comme une communauté, une assemblée vivent ensemble. Donc Dieu veut vivre avec nous, à chacun d'entre nous. Et donc beaucoup de gens dans le monde ont une vision négative de Dieu, à cause d'un arrière-plan culturel, parce que parfois eux-mêmes, alors ça on voit souvent dans les anciennes générations où ils allaient à l'école catholique et que donc ils étaient parfois soumis à des prêtres ou des sœurs qui étaient humainement pas bonnes, pas gentilles, et donc ils ont gardé un souvenir, on va dire, de Dieu, mais un peu fumeux, mais négatif. Et quand on leur parle de l'Évangile, ils veulent pas entendre parler parce que eux-mêmes ont vécu des mauvaises expériences. Et voilà, il se coupe au discours. C'est compréhensible, c'est même incompréhensible. Ce qui pourrait pouvoir arriver à leur faire comprendre, c'est que malheureusement, les mauvaises expériences qu'ils ont eues, c'est que ces personnes qui ont fait subir ça n'étaient pas dignes de Dieu et n'ont surtout pas fait ce que Dieu voulait, à savoir promulguer l'amour, la compassion, la miséricorde, aider les personnes. Et que, justement, Dieu ne souhaite pas ce qu'il a vécu, mais souhaite pour lui le bonheur. Et justement, l'Évangile parle de comment rendre cette personne heureuse. Donc, c'est pas facile d'évangéliser, parce que, voilà, il y a tout un contexte qui fait qu'il y a des barrières qui se mettent. Et surtout, donc, faire comprendre que... Parce qu'aussi, dans le monde, pour ceux qui acceptent Dieu, ils disent « Ah oui, mais Dieu est amour, donc il va tous nous accepter ». Vous connaissez peut-être une chanson de Michel Polnareff qui dit que nous irons tous au paradis, les prostituées, les ceci, les cela. Alors, quelque part, c'est vrai, puisque pour Dieu, quelle que soit la personne, il n'y a pas de pré-barrière pour entrer au paradis. Le ticket d'entrée, c'est la foi en Jésus-Christ. Mais ça, la chanson n'en parle pas, malheureusement. Voilà. Donc Dieu, effectivement, est amour, mais cet amour... s'exprime dans un cadre de sainteté et de justice. Et ça, c'est toujours mis de côté. Même chez les catholiques, parfois, ils disent « Ah oui, mais Dieu est amour !» Et quand j'ai, malheureusement, et vous aussi certainement, vous avez dû assister à des obsèques, et la messe donc qui est faite pour le mort dans l'église, et souvent de fois, le discours des prêtres catholiques, c'est de dire « Bah voilà, cette personne-là, bon, bah, elle a une vie humaine, elle a fait des erreurs, elle a péché, ceci, cela... » Et puis, ces derniers temps, donc, elle a été malade, elle a beaucoup souffert, comme Christ a souffert. Et donc, ils établissent un parallèle entre les souffrances de l'être humain, dans sa vie ou à l'approche de la mort, qu'il identifie à Jésus-Christ, et que donc, finalement, lui aussi, il va pouvoir entrer au ciel, parce que, comme Christ, il a souffert. Voilà, donc c'est un raccourci qui est très raccourci. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que malheureusement, on peut sur Terre souffrir énormément. Et ce n'est pas parce que Christ a souffert également sur la croix et que nous avons souffert, qu'on identifie à lui, qu'on va rentrer au paradis. Non. Comme dit Jésus-Christ, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et repentez-vous. Et allez vers qui? Croyez en moi, Jésus-Christ. Lui-même le dit. Et après, commence une vie chrétienne qui va s'intégrer dans un cadre d'amour, de sainteté, de justice. Donc on voit bien que le christianisme, c'est pas seulement le salut, c'est le point de départ, on va dire, c'est la foi en Jésus-Christ, mais après, c'est grandir comme un enfant grandit avec ses parents. Voilà. Et donc, nous aussi, nous sommes appelés à grandir spirituellement avec Dieu tout au long des jours terrestres que nous aurons. Et comme le dit notamment dans un des épîtres de Paul, au départ, on est amené à prendre du petit lait, c'est-à-dire des choses qui nous sont faciles à comprendre, à intégrer, des choses faciles de la parole de Dieu, pour après, peu à peu, commencer à augmenter en difficulté, si je puis dire. Parce que Dieu a effectivement un principe de vie, une pensée, qui au départ, pour un jeune converti, sont difficiles à comprendre. Il y a tellement de choses, il y a un contexte tellement ample à appréhender, et c'est pas toujours évident. Je sais pas vous, mais moi, quand je me suis converti au départ, je lisais la Bible, mais je lisais tout et n'importe quoi parce que j'avais une telle soif spirituelle qu'il fallait que je lise. Et bizarrement, même si je comprenais pas tout, je me souviens, les premiers livres que j'ai lus, c'était Isaïe. Et Isaïe, c'est des prophéties, donc c'est difficile à comprendre. Mais je dévorais ça et ça me nourrissait comme on prend un verre d'eau. Bizarrement, c'était pareil. Voilà, ça a étanché ma soif. Et après, peu à peu, avec l'Assemblée, avec les cours bibliques, on commence à comprendre le plan de Dieu, le plan du salut, Jésus-Christ, pourquoi, ceci, cela, voilà. Donc il y a une progression, une marche. Donc rien d'étonnant, rien de nouveau finalement, puisque c'est ce que nous vivons avec nos enfants. C'est la même chose. Et donc on voit que chez Dieu, ce qui l'intéresse, c'est vraiment une relation privilégiée avec chacun d'entre nous. La preuve en est, c'est que dans Matthieu 6:6, quand il compare comment doivent se comporter ceux qui croient en Jésus-Christ par rapport aux pharisiens, il dit bien « Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Donc on voit bien, rentre dans ton cabinet. Il y a une notion d'intimité. Il ne s'agit pas de se lever dans la rue comme faisaient les pharisiens et de prier pour dire « Ah, cet homme-là est bien religieux, bravo, qu'est-ce qu'il est bien ?» Non, non, c'est pas ça. Non, Dieu veut une relation intime avec l'homme et la femme. Et il souhaite que chacun d'entre nous lui expose ses difficultés, ses inquiétudes, même s'il a dit qu'on n'avait pas à se préoccuper pour des choses courantes. Malgré tout, on peut en avoir. Et il nous laisse la liberté de les lui présenter. Alors que les gens du monde, malheureusement, n'ont pas ça. Pour ceux qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas cru ou qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ, ils doivent porter tout le poids de la vie sur leurs épaules. Ils doivent faire face à toutes les inquiétudes, toutes les préoccupations chaque jour. Pour moi, c'est pour ça qu'on voit les gens qui sont tendus, qui sont parfois agressifs, parce qu'ils n'ont pas cette tranquillité de pouvoir se reposer sur Jésus-Christ, de pouvoir exposer leurs problèmes et d'avoir la confiance, peut-être pas maintenant, mais après ou plus tard, que Dieu va répondre, que Dieu va les aider. Et ça, c'est un bénéfice de la relation que nous avons avec le Seigneur. De même, Jésus-Christ avait dit également en Matthieu 6:18, « Afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est présent en secret, à ton Père qui voit dans le secret, te récompensera publiquement. » Là encore, le jeûne fait partie d'une pratique, on va dire, de relation avec le Seigneur. Les pharisiens le faisaient, mais ils se montraient publiquement en train de jeûner avec le visage dépité, fatigué, tout ça, pour faire voir que lui, il jeûnait et tout, il faisait les choses bien. Et non, c'est pas ça. Là encore, la question n'est pas de se montrer publiquement, de dire non, non, c'est une relation toute simple, mais sincère avec Dieu. Donc Dieu nous aime, il le montre de différentes manières. Mais Dieu souhaite également qu'on l'aime. C'est logique. C'est-à-dire, si un homme et une femme se marient, l'homme aime sa femme et la femme aime son mari. S'il y en a un des deux qui n'aime pas l'autre, pourquoi ils se marient, quoi? Hein? Ça paraît logique. Pourtant, des fois, il y a des choses comme ça qui existent. Dans Deutéronome 6, 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Deutéronome 11.1. Aime donc l'Éternel ton Dieu et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois et ses commandements. Psaume 31.24. Aimez l'Éternel, vous tous ses bien-aimés. Voilà, la relation, elle est dans les deux sens. Je dirais, j'enfonce des portes ouvertes, mais si on peut s'ancrer dans cette vision-là, peut-être que ça peut nous aider aussi à partager ça avec les gens qu'on veut évangéliser. Peut-être pas forcément au tout début, parce qu'au tout début, il y a l'imminence, on va dire, de l'enfer. Bon, peut-être qu'il faut sensibiliser là-dessus, mais tout de suite, il faut aussi dire, voilà, oui, mais il n'y a plus qu'à en faire. Vous êtes appelés à avoir une vie riche avec le Seigneur, qui souhaite votre bonheur et qui veut établir une relation avec vous, personnelle. Un autre exemple, psaume 37.4, « Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. » Psaume 50.15, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc voilà, on voit bien que le christianisme, c'est pas qu'une affaire de statut, de dogme, ça en fait partie bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on intègre dans notre relation avec le Seigneur et qu'on cherche à faire parce que c'est la vérité. Lui-même dit, ou je ne sais plus, c'est Paul ou Pierre, ta parole est la vérité. Donc ce qu'il dit est vrai. Et si c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Mais l'idée, c'est pas de faire pour faire ou faire parce qu'il faut obéir. Non, c'est parce que c'est la vérité. Et comme j'ai mon Seigneur qui m'aime, bah oui, je le fais parce que c'est naturel. Comme un enfant, finalement, obéit ses parents naturellement, parce qu'il sait que ses parents l'aiment, ses parents s'occupent de lui, lui aussi aime ses parents. Et donc finalement, naturellement, il est amené à faire les choses naturellement. Pas comme les Juifs qui devaient faire des commandements pour être sauvés. Ils ne pouvaient pas les faire parce que c'était tellement lourd et imposant que c'était impossible. C'était pour qu'ils se rendent compte qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin de Dieu comme sauveur. Alors, pour conclure, je vais vous lire 1 Corinthiens, chapitre 3. De versets 9 à 16. Justement, pour comprendre l'importance de cette relation. Dans ce passage-là, il y a l'idée, c'est tous les hommes, toutes les femmes seront jugés sur terre, enfin sur terre, pardon, devant le Seigneur. Aussi bien les incrédules que les chrétiens. Nous-mêmes, nous serons jugés. Mais ce n'est pas le même jugement. Le jugement sur lequel nous serons jugés, c'est le jugement de qu'aurons-nous fait avec notre foi en Jésus-Christ. Les autres, ce sera pourquoi n'avez pas voulu accepter et croire en Jésus-Christ. Parce que le jugement final, c'est pas un jugement, on va dire, t'as fait ou t'as pas fait. Le jugement final, ce sera le jugement de l'amour, parce que Dieu manifeste son amour en permanence. Et c'est l'objet de son action vis-à-vis de l'être humain. C'est par amour qu'il agit, par bonté. Donc quand Jésus-Christ vient sur terre, c'est par amour et par bonté, c'est pas pour condamner les hommes. On le voit très bien dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé les êtres humains, alors c'est le monde dans la version, mais le monde c'est les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Là on parle même pas d'enfer, c'est pour avoir la vie éternelle. Donc, et qu'est-ce qui motive le fait de vouloir donner la vie éternelle aux êtres humains? Eh bien c'est l'amour. Et donc, les gens seront jugés sur la base de ne pas avoir accepté l'amour, tout simplement. Et contre ça, il n'y a rien qui puisse aller contre. On ne pourra pas dire « Ah ouais, mais non, non, non. » L'amour s'est exprimé pour toi, tu ne l'as pas accepté. Malheureusement, tu ne peux pas aller au paradis, tu ne peux pas vivre avec Dieu. Parce que tu n'as pas accepté et t'as pas voulu accepter et intégrer son schéma d'éducation spirituelle. Parce que dans une famille, s'il y a quatre enfants, et si malheureusement l'un des enfants est extrêmement rebelle, qu'il met en permanence en cause l'autorité de ses parents, qui en permanence ne veut pas obéir, fait le contraire, fait des problèmes avec les voisins, etc., etc. Au bout d'un moment, le problème peut être tellement immense que les parents sont dépassés, ils ne peuvent plus s'occuper de l'enfant, ils doivent le mettre à part. Il ne peut plus rester dans la famille, parce que sinon c'est une cause de gêne, il ne va pas s'intégrer, voilà. Et les êtres humains qui n'auront pas accepté Christ, c'est pareil. Pourquoi irait-il au paradis? Pourquoi vivrait-il éternellement avec Dieu s'il n'intègre pas l'optique, la vision de Dieu? C'est pas possible. Il n'y a pas de communion de vision, de choses. Donc, malheureusement, le jugement sera sur ça, sur l'amour. L'amour refusé. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde comment il a bâti dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui. Il en fera la perte, pardon. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, en ce qui nous concerne, le jugement, ça sera, tu as cru en Jésus-Christ, tu as accepté son évangile, son salut, donc tu es sauvé. Donc sur cette base-là, nous avons acquis le salut éternel. Mais après, la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est quoi? C'est marcher avec Dieu, avec Jésus-Christ, pour croître en esprit, et en intelligence et en sagesse, pour lui donner des fruits, puisque lui-même le dit qu'il attend des fruits de notre part. 10, 30, 50, 100, suivant les personnes, suivant leurs talents. Et donc Dieu, Jésus-Christ, attend de voir ce que nous donnons. Et il y aura des récompenses sur ça. La première récompense, c'est que notre salut est assuré. Mais je dirais, si on veut avoir une bonne relation et être très proche de Dieu, comme Jean était très proche le soir de la Sainte Cène, où il avait la tête qui reposait sur la poitrine de Jésus-Christ, eh bien, c'est peut-être mieux d'avoir une relation encore plus proche avec Jésus-Christ, comme celle que Jean pouvait avoir avec Jésus-Christ. Et voilà encore que l'évangile de Christ, c'est toujours et encore une relation à développer avec lui au plus haut point que nous puissions le faire. Comme nous développons une relation intime au plus haut point avec notre épouse ou avec son mari. C'est la même chose, sauf que là, bah, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Je vous souhaite un bon dimanche.